sur l'évolution de la pluviométrie. Et la hausse des températures entraîne une hausse de l'évapotranspiration et donc une baisse des prix efficaces, ce qui fait craindre plus de sécheresse agricole et des étiages plus sévères. Je passe maintenant à l'évolution de la ressource, l'évolution passée de la ressource. On a étudié les tendances d'évolution des chroniques de débit de l'ensemble des stations du bassin de la Vienne qui disposaient de chroniques suffisamment longues. Donc on a fait des tendances sur 30 ans pour les stations qui en disposaient, une trentaine de stations je crois, et des tendances sur 60 ans pour une dizaine de stations qui avaient des très longues chroniques. Donc on a observé des tendances à la baisse pour les débits moyens pour une bonne partie des stations. Je rappelle que les tendances elles ont été calculées sur des débits mesurés et pas sur des débits naturels. Donc peut-être que l'évolution du débit n'est pas uniquement due à l'évolution du climat, mais aussi à une évolution des prélèvements ou des rejets. Il y a des actions qui, sont mises en, qui ont été mises en place depuis 60 ans pour limiter les impacts en été, avec les arrêtés sécheresses, etc. Ça peut être quand même des impacts, peut-être positifs, sur l'évolution des débits. À l'inverse, ça a peut-être eu des nouveaux prélèvements importants qui ont pu aggraver les situations. Donc voilà, petite alerte là-dessus. Donc on observe des débits moyens en baisse, mais surtout des débits d'étiage qui présentent des très fortes baisses, en particulier sur l'amont du bassin, donc ça s'explique assez facilement, on est sur une zone de socle, il y a beaucoup de ruissellement, les écoulements sont rapides, donc c'est des secteurs qui sont très vulnérables à la hausse de l'évapotranspiration et à la baisse des prix efficaces, comme je le disais tout à l'heure. Et puis on remarque sur les graphiques que les 5 dernières années ont été quand même très difficiles avec des débits d'étiage qui sont très faibles. Donc on a des baisses jusqu'à moins 20 à moins 25% par décennie sur l'amont du bassin. On a observé aussi les tendances d'évolution sur les piézomètres du bassin. Les chroniques là sont beaucoup moins longues, donc c'est à prendre avec précaution. Parfois on a 10-20 ans de chronique. Donc c'est peut-être parfois difficile de se prononcer sur l'évolution, et là encore, il y a des influences avec des prélèvements qui sont effectués dans les nappes et qui peuvent impacter les évolutions des piézomètres. Malgré tout, on observe des baisses sur une majorité des points avec des tendances significatives, 20 jusqu'à 10-20 cm par an d'évolution à la baisse de certains piézomètres. Donc dans les fiches, on a repris l'ensemble des résultats plus de détails. Donc à revenir sur l'évolution passée de la ressource, les débits moyens et les débits d'étiage mesurés sont en baisse. Les 5 dernières années sont particulièrement sévères et illustrent un petit peu ce qui va attendre le bassin dans le climat futur. Les niveaux piézométriques sont globalement en baisse, mais attention, les chroniques sont assez courtes. La température de l'eau augmente fortement, surtout en été, et à un rythme plus élevé que la température de l'air. Et enfin, il y a une fiche spécifique là-dessus, j'ai pas repris d'éléments là dans PowerPoint, mais on a vérifié statistiquement l'hydraulicité des cours d'eau, le volume d'eau dans les cours d'eau était bien lié à la fois à la pluviométrie, ça c'est logique, mais aussi à l'ETP, à l'évapotranspiration, et c'est bien le cas. Donc c'est pour ces raisons qu'il y a eu des conditions hydrologiques difficiles ces 5 dernières années, avec à la fois une évapotranspiration importante et à la fois une sécheresse météorologique. C'est également la situation à laquelle on est confronté en ce moment même, température très élevée et sécheresse météorologique. La pire des situations qu'on peut rencontrer. Donc voilà assez rapidement la synthèse des phases 1 et 3, 1 et 2, pardon. Je passe maintenant au résultat de phase 3, donc là on est rentré dans la phase prospective. Donc comment va évoluer le climat à horizon 2050, comment va évoluer la ressource en eau, comment peut évoluer la ressource en eau à horizon 2050. Une petite parenthèse, c'est résumé là également dans une des fiches, mais quelles données on a utilisées, comment le climat est modélisé. Le climat il est d'abord modélisé à l'échelle mondiale. Et ces modèles-là, ils sont forcés avec des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. On ne sait pas comment les émissions vont évoluer à horizon 2100, il y a différentes trajectoires possibles. Donc les modèles intègrent différents scénarios d'évolution de ces émissions, ce qui permet d'avoir une gamme d'incertitudes importantes de l'évolution des températures, mais qui est nécessaire de prendre en compte. Comme ça a été montré tout à l'heure dans le résumé du rapport du GIEC, On passe de plus 2 à plus 4 degrés en fonction de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Donc ces modèles globaux à l'échelle mondiale, ils ont des mailles beaucoup trop larges pour nous intéresser, nous, dans nos études locales. Donc ils sont régionalisés, on va utiliser des modèles régionaux, en l'occurrence des modèles européens, qui vont reprendre ces données-là à une échelle plus fine et qui permettent d'avoir des mailles beaucoup plus fines pour la production des résultats. En l'occurrence, on a des mailles de 8 x 8 km sur les collections qu'on a utilisées là. Donc le portail GRIAS met à disposition pour ce type d'études publiquement 12 couples de modèles globaux et régionaux. Et donc on a repris ces 12 couples de modèles parce que tous les modèles ne produisent pas les mêmes tendances, les mêmes gammes de résultats. Donc c'est important d'en prendre 12 pour bien rendre compte de l'incertitude. Hein. On ne sait pas quel modèle traduit le mieux le climat 2050-2100. On le saura en 2050 et en 2100, pour l'instant on ne sait pas. Donc c'est important d'en prendre en compte un certain nombre pour limiter les biais qui peuvent être attachés à l'un ou à l'autre des modèles. Donc on a pris 12 couples de modèles et on a pris également 2 scénarios d'émission, donc 24 modèles au total. On a repris le scénario RCP, donc maintenant ça s'appelle les scénarios SSP, dans le 6e rapport du GIEC. Je fais une parenthèse s'il y en a qui ne reconnaissent pas. Là, c'est les scénarios du 5e rapport du GIEC, donc pas de celui qui est sorti en 2021-2022, parce que dans le temps que les modèles moulinent, etc., on aura les données dans plus longtemps. Le scénario 4.5, c'est un scénario avec stabilisation des émissions à horizon 2030, puis une baisse à partir de 2050. On peut presque le qualifier de scénario optimiste au vu des tendances actuelles. Et le scénario 8.5, c'est le scénario du laisser-faire. C'est le scénario où il y a une poursuite au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre. Le scénario du pire ou le scénario de la tendance qui se poursuit. Donc du coup, c'est ces données-là qu'on a mobilisées dans le cadre de l'étude pour traduire l'évolution des températures, de la pluviométrie et de l'évapotranspiration. Ça nous a permis, par exemple, il y a une fiche qui reprend pour l'ensemble des paramètres, là j'ai repris que pour les températures, de reprendre avec la même légende quel sera le climat horizon 2050 sur la Vienne. Sur la gauche, c'est les normales actuelles, donc la moyenne sur la période 1990-2020, et à droite, c'est une normale future horizon 2050, une moyenne sur les années 2040 et 2070. Donc on voit que ça chauffe et qu'on a pris plus de degrés entre ces deux périodes-là. Donc du coup, ce que je mets dans les commentaires, on observe à l'échelle de la France un glissement de la typologie des climats. Donc en Vienne, pour l'instant, on est classé en climat océanique altéré, mais en climat 2050, on se dirige vers un climat plutôt à dominante méditerranéen. Donc un climat toujours tempéré, mais avec un été qui est chaud et sec. Et pas frais. Et donc on observait sur l'ensemble de la France avec vraiment une méditerranéisation du climat français en fait. Un autre point qui a été détaillé dans la fiche, Météo-France a étudié un certain nombre d'épisodes extrêmes qui se sont déroulés au cours des dernières décennies. Et a étudié si d'une part quelle était la probabilité d'arriver de ces événements-là s'il n'y avait pas un phénomène de changement climatique. Et ensuite, quelle était la probabilité que ces événements se produisent dans un climat futur à horizon 2050. Le premier enseignement, c'est que l'occurrence d'apparition de ces événements sans changement climatique est beaucoup plus faible. Donc ils ont été rendus plus probables par l'effet du changement climatique. Et ensuite, il y aurait sur par exemple les vagues de chaleur, et les pics de chaleur, une probabilité 2 fois plus élevée de les rencontrer à horizon 2050. Par exemple, ils ont fait le travail sur la vague de chaleur de juin et juillet 2019, elle aura 4 fois plus de chances de se produire à horizon 2040, donc dans un temps qu'aujourd'hui. Le pic de chaleur de septembre 2020, il sera 3 fois plus probable à horizon 2040. Et la canicule de 2003, qui était quand même particulièrement exceptionnelle, elle devrait rester exceptionnelle à horizon 2050, mais c'est un événement qui deviendrait régulier en fin de siècle si on part sur le scénario du laisser-faire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi eu une étude de l'évolution des événements extrêmes en matière de précipitations. Donc là, c'est plus difficile à qualifier. Justement, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de tendance sur la période passée, donc c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, en climat futur, ils notent qu'une intensification des pluies est à attendre, donc une multiplication des événements extrêmes. Voilà, donc si ce n'est pas chiffré, là, il n'y a pas de probabilité d'occurrence qui a été chiffrée. Et enfin, il y a eu des travaux sur l'impact du changement climatique sur l'occurrence et l'intensité des tempêtes, et là, il n'y a pas eu de résultats probants sur une augmentation de ce type d'épisode qui reste quand même rare. Donc si je reviens sur le bassin de la Vienne, on a donc étudié l'évolution en climat futur des températures. Donc évidemment, l'ensemble des projections a convergé vers une augmentation des températures qui est conséquente, plus 1,6 à plus 2,2 degrés selon le scénario d'émission à horizon 2050 par rapport à une normale 1976-2005. En fin de siècle, vous noterez que la trajectoire, elle diffère drastiquement en fonction du scénario d'émission. Avec un scénario de réduction des gaz à effet de serre, on se limiterait autour des plus 2 degrés. Avec un scénario du laisser-faire, on va jusqu'à plus 4 degrés. Et là encore, par rapport à la période 1976-2005, donc on gomme, entre guillemets, toute une gamme de progression de température qui a eu lieu avant ça. Donc on a produit pas mal d'indicateurs sur le paramètre température, avec notamment une évolution mensuelle de la température moyenne, maximale, minimale. On observe que c'est durant les mois d'été que la hausse des températures est la plus élevée. On pourrait avoir jusqu'à plus 6 degrés sur la période estivale en fin de siècle avec le scénario d'émission pessimiste laissé faire. On observe également que la hausse elle est uniforme sur l'ensemble du bassin versant. Là, la carte elle montre l'évolution des températures minimales, voilà, qui est vraiment similaire sur l'ensemble du bassin versant, ce qui est cohérent avec les observations historiques. Les températures minimales augmentent également et les températures maximales augmentent encore plus fort que les températures moyennes. Ça confirme ce qu'on a présenté tout à l'heure sur la partie historique. Le nombre de jours d'été, donc je le rappelle, les journées à plus de 25 degrés, il va fortement augmenter. 25 à 30 jours d'été en plus en 2050, donc voilà, un mois d'été calé entre le printemps et l'automne. Des journées de température extrême à plus de 35 degrés qui vont aussi être plus importantes. Plus 2 à 3 journées en moyenne, donc ça peut aussi se traduire par des vagues de chaleur et des canicules comme actuellement, qui peuvent être plus longues. Donc un été type 2050 sur le bassin de la Vienne, ça pourrait se rapprocher de l'été 2019. Le nombre de jours de gel, bah, il diminue, c'est logique, une quinzaine de jours de gel en moins en 2050, en moyenne sur le bassin. Je passe maintenant à l'évolution de la pluviométrie. Donc à horizon 2050, les modèles prévoient peu d'évolution de la pluviométrie annuelle. Et surtout, il y a une forte incertitude des modèles. Ça rejoint vraiment la cartographie de tout à l'heure. En France, on se situe vraiment, surtout au centre de la France, on se situe à la croisée entre une baisse de la pluviométrie globale dans la zone méditerranéenne et une hausse de la pluviométrie dans le nord de l'Europe. Donc ça veut dire pas mal d'incertitudes. On a des modèles qui prévoient une baisse de la pluviométrie, d'autres qui prévoient une hausse, d'autres qui prévoient une stabilité. Donc il faut vraiment garder en tête que rien n'est certain sur l'évolution de la pluviométrie. Le seul signal qui ressort, c'est que la répartition saisonnière des pluies, elle devrait évoluer. C'est le graphique de droite. Le premier graphique en haut, c'est les pluies hivernales, et celui du bas, c'est les pluies estivales. Donc on aurait, à horizon 2100, c'est pas très net à horizon 2050, mais le signal à horizon 2100, c'est une hausse des précipitations hivernales et une baisse des précipitations estivales. Il y a aussi un signal d'intensification des pluies dans le futur. C'est dur de le quantifier et les modèles ont du mal à traduire les phénomènes extrêmes, mais on irait vers quand même des pluies plus intenses. Donc du coup, là, on a aussi observé que les sécheresses météorologiques, donc les périodes sans pluie, seraient en augmentation, en particulier en saison estivale. Donc ça, c'est un point qui est important en matière de gestion de la ressource en eau. Et les sécheresses des sols vont également s'aggraver ben, en lien avec l'augmentation des températures, l'augmentation de l'évapotranspiration. Il y a eu des travaux menés en 2018, mais échelle France entière, qui montrait qu'il y aurait plus 30 à 40% de sécheresse agricole en France à horizon fin de siècle. Mais là, c'est échelle France entière. En ce qui concerne l'évapotranspiration, ben, on a une hausse généralisée de l'évapotranspiration potentielle, encore une fois. La hausse est progressive jusqu'à 2050, et puis ensuite, il y a un vrai décrochage, surtout pour le scénario d'émissions pessimistes. Horizon 2050, l'ETP en automne augmente en particulier de 10 à 15% et l'ETP en été de 10%. Donc ça signifie un allongement de la période estivale qui va encore impacter la ressource et allonger les étiages, comme on le verra tout à l'heure dans les slides suivantes. À retenir donc, sur la partie prospective climat, on a des températures moyennes qui sont en forte hausse, plus 1,6 à plus 2,2 degrés selon les scénarios. Des températures maximales qui présentent des hausses encore plus importantes, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est légèrement plus élevé, et jusqu'à plus 4 degrés en fin de siècle, ce qui est énorme. On a aussi un mois de jours d'été supplémentaires à horizon 2050. Pour la pluie, un signal d'intensification et de modification saisonnière des pluies en climat futur et une augmentation des pluies hivernales. Des épisodes de sécheresse météorologique qui sont plus longs, plus intenses, et ça concerne principalement les périodes estivales. Et puis enfin, l'évapotranspiration potentielle, donc la demande climatique, va être en hausse, en particulier en été et en automne. Donc j'en viens maintenant à l'impact de ces projections climatiques sur la ressource en eau, débit et niveau piézométrique. Donc un petit point méthode. Ben, pour traduire l'impact de cette évolution du climat sur la ressource en eau, on a mobilisé un modèle de Météo France qui s'appelle le modèle SIM2. C'est un modèle à base physique, donc avec un maillage en fait, sur la France entière. En données d'entrée, ben, il y a toute la météo, donc la pluviométrie, la température, etc. Il y a un compartiment sol, et ensuite le modèle identifie l'eau qui va ruisseler, l'eau qui va s'infiltrer, et ça permet d'avoir des débits naturels, parce que du coup le modèle ne prend pas en compte tous les impacts anthropiques, les prélèvements, les rejets, etc. C'est des débits naturels. Du coup, ce qu'on a fait pour que les données collent mieux avec, au mieux possible avec les mesures du territoire, c'est qu'on a corrigé ces chroniques de données-là avec les débits des stations hydrométriques, débits qu'on a renaturalisés pour que ça colle. On a soustrait l'ensemble des prélèvements et des rejets qui nous permettaient d'avoir des débits naturels, voilà, comme s'il n'y avait pas de prélèvements sur le bassin. Et avec ces chroniques-là, on a corrigé les sorties du modèle. Je n'ai pas précisé que ce modèle SIM2, il est calé avec les données climatiques actuelles. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils ont forcé le modèle avec toutes ces projections climatiques que j'ai présentées tout à l'heure. Donc du coup, on a 12 sorties de modèle, parce que c'est les 12 modèles du portail de TNAS, fois 2 scénarios d'émission, les RCP dont je vous ai parlé. Donc on a 24 chroniques de débit futur qui sont fournies par le modèle et qu'on a traitées. On présente des valeurs médianes de l'ensemble des modèles, mais il faut savoir qu'il y a quand même une grande incertitude. On a produit du coup une fiche spécifique qui reprend les résultats pour chacune des 22 stations étudiées. On a étudié 22 stations sur lesquelles les résultats de ce modèle étaient disponibles. Et vous verrez donc dans le détail qu'il y a un panache d'incertitudes autour du résultat médian qu'il faut prendre en compte. Donc voilà pour le point méthode. On pourra revenir dessus si vous avez des questions à la fin. Maintenant, si je passe au résultat, on a observé l'évolution des débits médians, des débits d'étiage et des débits crus. En ce qui concerne d'abord les débits d'étiage naturels, et ben on a des tendances à la baisse qui sont très importantes à horizon 2050, jusqu'à 50% de baisse sur les têtes de bassin versant. C'est vraiment les zones de socle qui sont les plus vulnérables. On note également, par exemple, avec un exemple sur une station qui est située sur la Vienne, on note qu'il y a une forte baisse en 2050, mais une aggravation très importante des tendances à horizon fin de siècle. Alors, fin de siècle, c'est lointain, mais il faut vraiment garder à l'esprit que voilà, en 2050, ça baisse, mais ça s'aggrave encore derrière. Et ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit, peut-être pour les solutions d'adaptation, par exemple. Si on veut qu'elles soient pérennes, il faut quand même s'inscrire dans un temps long.
On notera aussi qu'assez rapidement, à l'horizon 2040-2050, le modèle il fournit des valeurs de débit d'étiage qui n'ont pas été rencontrées pendant la période de référence qui a été simulée par le modèle. Donc ça, c'est assez inquiétant. Ça veut dire qu'on peut aller au-delà de ce qui s'est rencontré. Je rappelle quand même que la période de référence du modèle ne prend pas en compte les 5 dernières années, 6 dernières années qui ont été très difficiles sur le plan hydrologique. Je vous parlais de la gamme d'incertitudes importantes des résultats tout à l'heure. Vous le voyez sur le graphique de droite, ça c'est une couleur égale un modèle. Là on a repris le scénario 8.5, le scénario du LICPR, et vous voyez que si la grande majorité des modèles se comportent un peu de manière similaire vers une baisse, on a deux modèles qui prévoient une hausse importante des débits par exemple. Donc il y a quand même une incertitude élevée. C'est des modèles qui prévoient une hausse très élevée des précipitations en fait. Donc ça se traduit comme ça sur les débits. Pour poursuivre les analyses, donc le graphique en haut à droite représente le régime hydrologique actuel et horizon 2050. Bon là, évidemment, vous ne pouvez pas voir, mais c'est détaillé dans les fiches. En bleu, on est sur le régime historique et en rouge et orange sur les régimes 2050. Ce qu'on observe, c'est qu'un allongement de la période d'étiage ou de basse eau, sur le terme employé, en climat futur. L'étiage se manifeste dès mai-juin et se poursuit en automne. En ce qui concerne ensuite les débits médians, on observe une baisse sur la plupart des stations, surtout en deuxième moitié de siècle, avec néanmoins une variation interannuelle qui est assez importante. C'est difficile de donner des chiffres précis sur les débits médians, parce que comme vous le voyez sur le graphique d'une année sur l'autre, on a des débits importants ou pas. En ce qui concerne enfin les débits de flux, il y a une forte incertitude, mais néanmoins, on observe une tendance à la hausse, en particulier en aval du bassin versant. Et ça rejoint les cartographies d'évolution de la pluviométrie qui montrent une hausse plus importante de la pluviométrie hivernale en aval du bassin. Donc on peut relier un peu ces deux informations. Je vous rappelle que donc, ouais, ces graphiques d'évolution, les graphiques que j'ai mis en illustration, ils ont été produits pour les 22 stations du territoire et il y a une fiche spécifique qui reprend les résultats pour les 22 stations. Je passe maintenant à l'évolution des niveaux de nappe. Donc là aussi, petit point méthode. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé au niveau de 5 piézomètres du territoire l'évolution des niveaux de nappe. Donc on a utilisé le logiciel Gardena, c'est un modèle pluie niveau de nappe. On va le voir tout à l'heure, ça a quelques biais. Et on a injecté les chroniques de pluie et les chroniques d'évolution de l'évapotranspiration une fois le modèle calé pour voir comment se comportaient les piézomètres en temps futur. On n'a pas pris en compte les échanges entre les nappes et la rivière, on n'a pas pris en compte le lien avec le superficiel. Donc on le verra plus tard, les résultats vont vraiment apprendre avec précaution. Je vous invite du coup à bien guetter les résultats de l'étude Explore 2, parce que dans le cadre d'Explore 2, il y a le modèle jurassique, un gros modèle hydrogéologique qui couvre une partie du territoire qui va être mobilisé. Et là, c'est un modèle beaucoup plus robuste, qui prend en compte les liens avec le superficiel. C'est un modèle maillé, et donc du coup, les résultats sont quand même beaucoup plus solides. Donc il faudra regarder les évolutions envisagées par ce modèle-là. Le modèle avait déjà été mobilisé dans Explore 70, mais à l'époque d'Explore 70, les projections de pluie, elles prévoyaient une baisse de la pluviométrie. Donc du coup, il faut un peu se méfier des résultats passés, parce que, comme on vient de le voir, les nouvelles projections climatiques ne montrent pas la même chose. Donc, attention. Du coup, si on passe aux résultats, notre modèle pluie niveau, il n'a pas montré de tendance particulière d'évolution de la piézométrie sur les 5 piézomètres qu'on a étudiés, un piézomètre sur le socle, 3 piézomètres dans les nappes calcaires et un piézomètre en vert sur le cénomanien. Et on est plutôt sur une stabilisation des niveaux piézométriques. On pourrait dire finalement une stabilisation de la recharge de la nappe. Ça s'explique assez facilement. On a vu qu'en période hivernale, les modèles ne prévoyaient pas une baisse de la pluviométrie. Donc du coup, le modèle il a toujours sa recharge qui est satisfaisante. Donc il ne montre pas de baisse derrière. Vu que les nappes se rechargent en hiver et pas en été, ça n'impacte pas les chroniques piézométriques. Mais du coup, là, voilà, on met un petit point d'attention. Les nappes, elles peuvent aussi être impactées par les baisses de débit en surface, qui vont accentuer le drainage de la nappe, et ça, c'est pas pris en compte par le modèle, donc c'est un point de vigilance important. Une vraie limite de déploiement. Et puis, en deux mots, ne pas oublier que le changement climatique va impacter les milieux, en particulier les zones humides qui vont être menacées d'assèchement avec la hausse des températures et l'évaporation. La hausse de la température de l'eau, elle augmente, comme on l'a dit, plus vite que la température de l'air. On n'a pas de données sur les projections d'évolution de la température de l'eau, mais il y a des travaux en cours à l'INRAE qui se poursuivent, donc ça pourra être complété assez rapidement. Il y aura des simulations dans le futur. Et puis, tout ça, ça fait plein de disparitions d'habitats qui sont propices pour un certain nombre d'espèces, donc pour certaines protégées sur le bassin versant. Alors, elles sont contraintes de sortir de leur zone de préférence thermique. Donc voilà, on pense à toutes les espèces piscicoles, aux poissons. Il y a aussi, on a mis un exemple de la rainette avec son aire de répartition qui diminue drastiquement à horizon 2050. Donc à retenir sur la prospective ressources, les débits sont projetés à la baisse, en particulier les débits d'étiage des cours d'eau qui pourraient baisser jusqu'à 50% aux zones de socle, et des débits crus qui pourraient augmenter en aval du bassin en lien avec les projections pluviométriques. Mais attention, beaucoup d'incertitudes sur la pluie, donc beaucoup d'incertitudes sur l'évolution des débits crus. Deuxième point, la recharge hivernale des nappes devrait se maintenir en climat futur. Mais les impacts des baisses de débit sur les niveaux de nappe, ils sont vraiment à clarifier. Et dernier point, ne pas oublier que les milieux seront les premiers impactés par la baisse des lignes d'eau et l'augmentation de la température de l'eau. On n'a pas parlé d'usage pour toute cette présentation. Il faut savoir que une partie de notre mission, c'était également de caler un modèle d'allocation de ressources sur le bassin de la Vienne, c'est le modèle WIB. Donc en fait, on a mis tous les débits naturels des cours d'eau du bassin de la Vienne et également les influences anthropiques, donc l'ensemble des prélèvements, des rejets, etc., pour caractériser le fonctionnement du bassin. Et on a introduit tous les scénarios d'évolution des débits. Les données que je vous ai présentées, on a les chroniques mensuelles jusqu'à 2100, on les a injectées dans le modèle, ce qui permet derrière de tester des scénarios d'évolution. Donc dans un premier temps, on peut tester des scénarios d'évolution à usage constant. Est-ce qu'avec des débits de 1050, ça passe ou pas? Et derrière, qu'est-ce qui se passe si on fait évoluer tel ou tel usage? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Il faut bien tester avec l'ensemble des modèles. Hein, comme je disais, ils n'ont pas tous les mêmes résultats. Donc il faut tester séparément et voir. Et donc ça, c'est un travail que va mener le PTB Vienne par la suite pour tester... la satisfaction des besoins des milieux et la satisfaction des usages. Voilà pour la présentation.